La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Les récents progrès en matière d'intelligence artificielle, notamment ceux révélés très récemment avec l'utilisation par le grand public de GPT-4, conçu par OpenAI, ont produit une véritable panique morale. Certains commentateurs allant jusqu'à imaginer la destruction de dizaines de millions d'emplois dans les mois qui viennent. Mais qu'en est-il réellement ? Et pour tenter de répondre à cette question sur l'avenir de l'intelligence artificielle et ses effets, sans doute convient-il de commencer par se tourner vers le passé de cette même intelligence artificielle. C'est notamment ce que propose de faire le philosophe Daniel Handler dans un essai important, Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. Daniel Handler, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous êtes aujourd'hui professeur émérite de Sorbonne Université, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, mais vous avez été, ou sans doute êtes-vous toujours, parce que quand on l'a été, on le reste pour la vie, mathématicien. Vous avez commencé par là, par les mathématiques et par une thèse à l'Université de Berkeley au tout début des années 70, et puis vous avez progressivement bifurqué vers la philosophie. Vous êtes l'un de ceux qui ont construit ce domaine qu'on appelle les sciences cognitive en France, en tout cas, et c'est vraiment avec ce recul que vous pouvez aujourd'hui appréhender l'actualité la plus brûlante, la plus récente aussi, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, celle que je mentionnais dans l'introduction de cette émission, à savoir ce qui relève du deep learning, on va y revenir. Mais pour comprendre ce qui est en train de se passer et en train d'affoler aussi beaucoup de gens, sans doute il faut remettre tout ça en perspective. Cette perspective est à la fois longue et en même temps relativement récente. C'est-à-dire que vous avez commencé à travailler au début des années 70 sur ces questions, mais on peut dire qu'elle remonte aux travaux sur l'informatique, aux premiers travaux d'Alan Turing, auxquels vous rendez hommage dès le démarrage de votre livre, Daniel Handler.
Oui, avant Turing, on peut même mentionner toute l'école de logique des années 30 et 40, la cybernétique des années 40 et 50, mais Turing est effectivement le point de repère.
Enfin, quoi qu'il arrive, ça fait même pas un siècle, quoi.
Ça fait même pas un siècle. Mais ça fait quand même, disons, puisque la naissance officielle, on la date de 1965, pardon, 1956, je confonds 56 et 65, parce que 65 ans, c'est l'âge, hein, c'est l'âge de l'intelligence artificielle. Et donc, ce ChatGPT, ce GPT-4 qui déboule en quelque sorte dans notre conscience collective et qui nous inquiète, à mon avis à juste titre, on y reviendra peut-être, n'est pas né du jour au lendemain d'une espèce de coup de génie technologique.
D'une start-up.
D'une start-up quelconque. C'est un effort donc continu dont il est essentiel de rappeler qu'il se situait dans une perspective absolument clairement de reconstituer, de simuler, de créer de l'intelligence, tout court, c'est-à-dire de l'intelligence humaine. Et l'idée, au fond, c'était que, de même qu'on a pu fabriquer, je ne sais pas moi, de l'urée
synthétique,
en 28 ou quelque chose comme ça, qui n'était pas fabriquée par un organisme animal, mais fabriquée par un chimiste en laboratoire, on allait faire la même chose pour l'intelligence, on allait fabriquer une intelligence de synthèse qui aurait, par rapport à l'intelligence humaine, organique, biologique, le même rapport, si vous voulez, qu'une tasse en plastique ou en polystyrène avec une tasse en porcelaine. Et donc, c'est vraiment l'intelligence que l'on vise. C'est pour ça que, quand on dit, il est évident que cette intelligence artificielle, faut mettre un trait d'union parce que c'est clairement pas intelligent. Pourquoi c'est clairement pas intelligent? Parce que c'est des machines, et les machines sont clairement bêtes. Ah mais non, mais c'est présupposé ce qu'on cherche justement à comprendre. Et c'était ça qui m'avait mis d'ailleurs, une anecdote biographique qui a absolument aucun intérêt, c'est ça qui m'a mis sur le chemin de l'intelligence artificielle, finalement m'a ouvert la voie de la philosophie, parce que moi je débarquais avec l'idée qu'il est très évident que l'intelligence artificielle n'est pas une vraie intelligence, Et puis, j'ai vu que des philosophes beaucoup plus calés que moi, je l'étais pas du tout à l'époque, eh ben, ils avaient du mal à trouver des arguments très précis. C'est pas du tout évident. Alors, il y a eu donc ce grand mouvement qui a consisté à développer un programme d'intelligence artificielle, côté face et côté pile, le programme des sciences cognitives, pour essayer de comprendre ce qu'est l'intelligence humaine ou la cognition humaine.
Alors, c'est ça que vous essayez de tenir en parallèle dans cet essai, qui s'appelle donc « Intelligence artificielle, intelligence humaine ». À la fois ces recherches qui ont fini par produire là où on en est aujourd'hui, avec des moments où on va y revenir de repli, de redéfinition des objectifs aussi. Et puis d'un autre côté, les progrès faramineux également des sciences cognitives qui viennent de différents horizons. D'ailleurs, les philosophes y ont pris leur part, mais bien évidemment les biologistes, les neurobiologistes, et puis de nombreuses compétences et de nombreuses sciences pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne l'intelligence humaine. Vous décidez aussi, dès le début de votre livre, pour nous aider à réfléchir sur ce parallèle entre intelligence humaine et intelligence artificielle, de proposer d'écrire soit intelligence artificielle en deux mots, soit intelligence artificielle en un mot avec un tiret entre les deux, pour mieux signifier dans le second cas qu'il ne s'agit pas d'intelligence au fond, qu'il s'agit de quelque chose qui emprunte ce mot pour désigner un autre objet, au fond, que l'intelligence qu'on pourrait qualifier avec un adjectif d'artificiel.
Voilà, c'est ça. Et donc, les pionniers, pour eux, ne voulaient pas mettre un trait d'union. C'était pas l'objet. Ils allaient, en quelque sorte, déchiffrer à la fois les mécanismes de l'intelligence humaine et puis les simuler, les reproduire sur des ordinateurs avec un aller-retour qui permettait donc à la machine de vérifier les hypothèses qu'on avait développées, disons, empiriquement, en psychologie, psychologie du développement, neurosciences, etc. Mais assez rapidement, cette première phase, en quelque sorte, des recherches a conduit à une impasse. Alors quand je dis ça très vite, ça peut un petit peu chiffonner mes amis de l'intelligence artificielle qui dit pas du tout, c'était une première voie, c'était un essai intéressant. Mais enfin, en gros, les idées de départ n'ont pas vraiment conduit à des performances très grandes. Et en fait, l'intelligence artificielle des débuts, qui consistait en fait à reprendre en quelque sorte méticuleusement, pas à pas, les démarches de l'intelligence humaine quand elle résout un problème, quand elle joue aux échecs, quand elle planifie, je ne sais pas, un voyage de Paris à New York. Eh bien, ce programme n'a pas conduit à des résultats probants.
Alors même que ceux qui mettait en œuvre ce programme, qui était investi, qui en faisait la publicité, la promotion dans les journaux et dans leurs articles à l'époque, était persuadé qu'en quelques mois, on allait voir ce qu'on allait voir.
Ah oui, c'était les déclarations de l'époque étaient absolument extraordinaires de ce qui paraît.
On parle de la fin des années 50, début des années 60. Là.
Voilà, c'est ça, exactement. Alors, ce programme a continué. Alors maintenant, on a tendance à l'enterrer, et même certains lecteurs pourront se demander, est-il bien utile de revenir sur ce qui a été une impasse? Ce serait comme dire, voilà, je fais un livre sur l'aviation moderne et je parle longuement des ballons
de Vinci, etc.
Oui, non, non, mais alors justement, la subtilité là, ou la petite nuance à apporter, c'est que la vision des pionniers est toujours présente. C'est toujours ça que l'on veut faire. Tout récemment, quand le deep learning a remporté ses premières victoires. Entre les deux, il y a une période où, effectivement, les spécialistes d'IA mettaient le trait d'union. Comme ça, on leur fichait la paix. Ils disaient, non, non, moi, l'intelligence humaine, je ne sais pas vraiment ce que c'est, d'ailleurs, personne ne sait. Et au fond, moi, je ne cherche pas à reproduire l'intelligence humaine, je cherche à obtenir d'ordinateurs convenablement programmés des effets d'intelligence. Donc, je ne m'intéresse pas à la production. Comment fait l'être humain, par exemple, pour produire des comportements intelligents, je m'intéresse aux traces sous forme de comportements, d'écrits, de solutions de problèmes, etc., aux traces que laisse donc l'intelligence humaine. Donc, l'intelligence artificielle est devenue l'art de produire des effets d'intelligence, faire produire des effets d'intelligence sans recourir à l'intelligence.
C'est cette ambition considérable qui est présente dès le départ, elle est présente dans les articles fondateurs, je citais le nom d'Alan Turing tout à l'heure, article que vous citez, lui aussi semble persuadé qu'on arrivera rapidement à des choses proprement incroyables et qui sont du même ordre que l'intelligence humaine, en fait.
Oui, il en est persuadé. Cela dit, et ça peut-être, ça peut nous orienter ensuite vers le deep learning, il avait compris qu'il fallait quand même définir ces termes. Donc, comme il savait que l'intelligence était à l'époque, elle est encore beaucoup associée à des idées de personnes, de conscience, etc., il a dit, écoutez, je vais plutôt me rabattre sur la question du comportement et essayer de faire à une machine du comportement intelligent. Mais même pour cet objectif, il a très tôt compris qu'il faudrait à la machine apprendre beaucoup de choses sur le monde tel qu'il est. Et il a aussi compris que on ne pourrait pas nourrir la machine à la petite cuillère, petit bout par petit bout. Ça serait tout simplement trop long. Et donc, il s'est dit, il faut que la machine apprenne à apprendre elle-même. Et ça, c'est au fond ce qui distingue au sein, disons, de l'informatique, c'est ce qui distingue l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la tentative de donner aux machines la capacité d'apprendre par elles-mêmes. Alors, c'est un petit peu à ça qu'on est arrivé, c'est-à-dire on a pris un chemin complètement différent du chemin des pionniers, qui consistait à raisonner à partir de ce que fait l'être humain quand il est conscient, il résout un problème, il joue aux échecs, il planifie un voyage de Paris à New York. On s'est dit, on va pas du tout faire comme ça, on va plutôt essayer de collectionner des exemples de comportements intelligents, en commençant par des choses assez simples, apparemment, en fait elles sont assez compliquées, mais enfin apparemment assez simples, qui sont la perception. Il faut un minimum d'intelligence pour reconnaître un visage mal éclairé, reconnaître le visage de sa mère sur une vieille photo de passé, etc., etc. Et on a compris comment programmer une machine de manière à ce qu'elle puisse devenir une machine à reconnaître les formes, reconnaître les objets, extrêmement performante. Et on a fait ça comment ? En lui donnant des tas et des tas d'exemples.
Et donc on apprend à partir
d'exemples.
En nous mettant tous à contribution, puisque c'est à ça que servent les fameux tests CAPTCHA, les fameux tests qu'on a sur des pages internet où on nous demande de cliquer les images qui ont une voiture ou un vélo ou tel animal, en fait.
C'est ça. Et en fait, on utilise aussi des procédés industriels qui mobilisent beaucoup de travailleurs très mal payés dans des pays en développement pour identifier, étiqueter des images les unes après les autres. Donc là, d'une certaine façon, on a un peu, en un sens, renoncé, puisqu'il n'est plus du tout question d'intelligence humaine, il est question simplement de faire défiler des exemples étiquetés et de dire à la machine, voilà, ça c'est un chameau, ça c'est un chameau, ça c'est un chameau, ça c'est pas un chameau, ça c'est un dromadaire, etc. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est une prouesse technique tout à fait extraordinaire, rendue possible par toutes sortes de choses, par des développements mathématiques qui sont pas triviaux du tout, même si j'ai été mathématicien, je pourrais pas vous les expliquer en détail sans me préparer soigneusement, et aussi des développements technologiques, y compris au niveau de la mémoire, de la rapidité des processeurs, etc. Donc il y a une incroyable ingéniosité humaine pour mobiliser tout ça et pour faire que la machine est capable donc de reconnaître une grande variété de catégories différentes. Et puis on arrive maintenant à se passer en partie de la contribution humaine. Donc de plus en plus, ces processus d'apprentissage s'automatisent et se perfectionnent.
Donc là, au fond, on est dans ce qu'on appelle le deep learning,
voilà.
Cette capacité des machines à apprendre par elles-mêmes. Et donc, c'est d'une certaine façon à la fois un développement considérable de la puissance de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et en même temps un resserrement du programme initial qui était beaucoup plus large que ça.
Tout à fait. D'une certaine façon, c'est un renoncement massif, en quelque sorte, aux ambitions de départ. Il est assez étonnant, et on a constaté ça aussi en sciences cognitives, donc le parallèle avec les sciences cognitives continue d'être très pertinent, qu'il était finalement plus facile de comprendre comment le cerveau perçoit, comment il organise sa motricité, comment il repère une source sonore, toutes choses sur lesquelles nous n'avons pas de prise intellectuelle explicite. Moi, je ne sais pas comment je repère une suite sonore. Ça se fait tout seul. D'ailleurs, je ne sais pas non plus comment je parle. Ça se fait tout seul. Ni comment je comprends. Ça se fait tout seul. Donc, tous ces processus qui passent un peu sous le radar de l'inspection, de l'introspection, si vous voulez, ces processus-là, on arrive aussi bien à mieux les comprendre chez l'être humain et chez l'animal de manière générale, et aussi à les simuler. Et la grande trouvaille du deep learning, c'est de se rendre compte que les processus supérieurs, les processus de raisonnement, le jeu d'échecs, le jeu de Go, la découverte scientifique dans certains cas, etc., pouvaient aussi être considérés comme des formes de perception généralisée. Ça a été la découverte fondamentale qui ne date pas du tout d'aujourd'hui. Elle date d'hier et même d'avant-hier, puisque c'est en gros dès la fin des années 60 et certainement au cours des années 70 que ce paradigme, en quelque sorte, que j'appelle parfois le connexionnisme, qui était son ancien terme que je réhabilite parce que je le trouve plus élégant que deep learning. Le deep learning est un avatar du connexionnisme qui a monté en puissance et qui a complètement déboulé sur la scène scientifique et technique au milieu des années 80. Et puis qui a connu une décrue pour toutes sortes de raisons et qui a rebasculé dans l'actualité très exactement en 2012 lorsque un modèle connexionniste a battu à plate couture les modèles de l'ancienne école en matière de reconnaissance d'images. Alors du jour au lendemain, c'est comme si un champion d'art martial numéro un avait remporté sur un boxeur, mettons, anglais ou français, et que tout à coup on a dit, ah ben cet art martial, c'est celui-là qui est capable de vaincre. Et c'est vraiment ça qui s'est passé entre donc 2012 et maintenant 2023, ça fait donc 11 ans.
Mais alors vous qui observez comme philosophe l'avancée, les progrès de ces champs de connaissances que sont d'un côté l'intelligence artificielle et de l'autre les sciences cognitives, quelles relations ont-ils entretenues? Dans quelle mesure les gens qui se préoccupent de fabriquer des intelligences artificielles ont suivi les travaux, les avancées des sciences cognitives? Est-ce que ça leur a servi de modèle? Est-ce que ça les a aiguillonnés?
Pas vraiment. On dit souvent que le modèle très élémentaire de neurones formels, donc proposé par McCulloch et Pitts en 1943, a servi en quelque sorte de point de départ. Et donc, en gros, ces réseaux de neurones, les réseaux du deep learning, sont constitués par des unités qui ressemblent en un certain sens à des neurones humains et qui forment des réseaux qui sont évocateurs des réseaux neuraux effectifs. Mais au-delà de ça, on peut dire que l'influence a été très faible et qu'on revient peut-être aujourd'hui à l'idée que pour franchir une étape de plus, aussi bien vers de nouvelles réalisations que dans la compréhension des toutes dernières réalisations, un rapprochement avec les sciences cognitives serait très utile.
Alors, des progrès considérables, mais malgré tout, ce qui demeure et qui donne le titre de votre livre, une double énigme. Quelle est-elle pour vous, Daniel Handler?
Alors, la première énigme, la plus simple à formuler, c'est l'énigme de l'intelligence. Les gens disent, voilà, c'est de l'intelligence, c'est pas intelligent, parce que c'est une machine, mais à vrai dire, si on les pousse un peu dans leur retranchement, ils n'en savent rien, et à la fin des fins, ils disent, oui, mais l'intelligence, il y a autant de définitions d'intelligence que de personnes qui réfléchissent à l'intelligence, donc c'est un de ces concepts insaisissables, voilà, ça nous sert tous les jours, mais enfin, circuler, il n'y a rien à voir, voilà. Bon, c'est une énigme, on ne peut pas à la fois compter à ce point sur la notion d'intelligence, aussi bien quand nous recrutons un collaborateur, quand nous lamentons sur le manque d'intelligence dont nous avons fait preuve en telle ou telle circonstance, par exemple, et d'un autre côté, congédier la question de l'intelligence artificielle avec ou non trait d'union en disant « tout le monde sait qu'une machine, c'est bête, ça fait ce qu'on lui dit de faire », sans avoir une idée un peu plus claire de ce qu'est l'intelligence humaine. Donc, moi, j'ai essayé, en quelque sorte, de proposer une réponse ou un début de réponse à cette question-là. Donc, résoudre l'énigme, c'est peut-être un peu prétentieux, mais résoudre quand même l'énigme de l'intelligence humaine. Alors, la deuxième énigme, puisqu'il y a une double énigme, c'est comment se fait-il que l'intelligence artificielle fasse des progrès? Pendant très longtemps, elle était stagnante, ça donnait rien, la question n'était pas intéressante, mais tout à coup, elle devient très intéressante parce que ChatGPT, GPT-4 et d'autres réalisations sont effectivement très impressionnantes, donc exercent des effets d'intelligence tout à fait extraordinaires, tout à fait dangereux aussi, et donc la question mérite vraiment d'être posée. Alors, comment se fait-il que l'intelligence artificielle fasse des progrès aussi spectaculaires et que, selon moi, elle ne se rapproche toujours pas de son objectif qui est celui de la véritable intelligence. Donc c'est la deuxième énigme que je cherche à résoudre. Voilà, et je le fais, pour le dire en deux mots, en essayant de proposer que l'intelligence artificielle est une redoutable, de plus en plus redoutable et efficace résolveuse de problèmes. Elle résout des problèmes de plus en plus compliqués, de plus en plus variés, et très souvent bat l'homme sur ce plan, dans toutes sortes de domaines. Et qu'en revanche, l'intelligence humaine a quelque chose à voir avec la capacité d'agir de manière appropriée dans des situations concrètes, dans des situations vécues, qui sont les situations de l'être humain lui-même. Et ça, l'être humain, pour le dire rapidement, n'existe pas du côté artificiel. Donc, une machine ne peut pas connaître une situation concrète humaine de la manière dont un être humain peut le faire. Alors, ça peut sembler être... comment dire, un petit peu subtil, un petit peu peut-être sophistique même, j'attends des critiques de ce genre, mais je crois que c'est très important, et quand on creuse cette différence, comme j'essaie de le faire dans le livre, entre agir de manière appropriée dans une situation et résoudre un problème, je crois qu'on voit, disons, se dessiner, c'est ce qui c'est, une véritable différence entre intelligence artificielle
vous voulez
et
dire
intelligence
par là,
humaine.
Vous voulez dire par là, au fond, que l'intelligence humaine, c'est d'abord et avant tout avoir l'intelligence des situations, dans des moments où on est sommé d'agir sans avoir le temps de poser un problème qu'il s'agit de résoudre, en quelque sorte.
Voilà, c'est ça. Qu'on ait ou non le temps, de toute façon, il y a le passage de la situation au problème. Dans beaucoup de cas, effectivement... Une situation est relativement typée, relativement connue, standard, et on voit quel problème il faut résoudre. Si je suis en train de projeter d'aller à New York et d'y être la semaine prochaine, bon, voilà la situation dans laquelle je me trouve, bon, c'est pas très compliqué de formuler le problème adéquat. Mais dans beaucoup de cas, le problème adéquat ne s'impose pas du tout. Il peut y avoir plusieurs façons. On peut aussi décider de ne pas aborder la situation, de ne pas y faire face. D'une part, et d'autre part, la manière plus ou moins appropriée dont nous faisons face à une situation est une question d'appréciation. Et en fait, pour moi, l'intelligence, c'est une norme qui régit, qui porte sur la manière dont nous gérons des situations concrètes, particulières, vécues.
Venons-en à ce qui inquiète beaucoup de monde, vous compris, Daniel Handler, c'est-à-dire ces progrès faramineux de l'intelligence artificielle avec donc ce connexionnisme, ce deep learning, progrès faramineux dans le sens où l'avant-dernière version de GPT-4, si j'ai bien compris, permettait à une candidate au concours du barreau aux États-Unis d'obtenir des notes pas terrible, et la nouvelle version, sortie 6 mois plus tard, lui permet d'être reçue dans les toutes meilleures candidates.
Oui.
Là, ça a commencé à inquiéter sérieusement.
Ah oui, 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 c'est une des raisons de s'inquiéter. À mon avis, il y en a d'autres. Je dirais qu'il y a peut-être 3 raisons de s'inquiéter. L'une, c'est que ça va évidemment modifier de manière assez fondamentale l'exercice d'un certain nombre de professions. Et ça, c'est une préoccupation. Peut-être ça va mettre les gens au chômage. Peut-être ça va modifier même le sens même de la profession, qui va disparaître, comme après tout, les porteurs d'eau. Il n'y en a plus à Paris. Voilà, c'est terminé. Donc ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est que combiné avec Internet, ChatGPT et ses frères peuvent donc générer un flux absolument, un déluge de représentations diverses et variées qui ne sont ni authentiques, ni humaines, ni vraies.
Ça, c'est
ni
les
rien.
Deepfakes, par
voilà,
exemple.
Les deepfakes,
que s'agisse d'images, de sons, de voix. Ça devient de plus en plus compliqué d'authentifier des documents.
Oui, exactement. Et la troisième raison, c'est que, à vrai dire, nous ne savons pas très bien comment fonctionne ChatGPT. Donc, ça n'est pas comme, bon, un Boeing 747 ou une Maserati ou...
Oui, ça s'apprend.
Oui, oui, on sait qu'il y a des gens qui maîtrisent la chose. ChatGPT, on ne sait pas. Donc, d'abord, il y a un
Même ceux qui ont participé à l'élaboration.
Même ceux qui ont participé à l'élaboration. Je crois que, bon, d'une part, il y a évidemment des aspects de secret industriel qui sont très inquiétants vu l'importance et la dimension des effets possibles. Mais il y a aussi un problème théorique. C'est que c'est empiriquement que les modélisateurs, les ingénieurs, qui travaillent d'ailleurs par milliers, voire dizaines de milliers, n'est-ce pas, dans le système actuel de recherche, donc personne ne possède la clé du tout, même derrière, en quelque sorte, les barrières de Google et de OpenAI, mais surtout qu'on ne sait pas pourquoi ça marche. on ne sait pas, on ne comprend pas exactement comment ça marche. Et ça pose, aussi bien aux sciences cognitives qu'aux philosophes de l'esprit et du langage, un défi extraordinaire. Et donc, je compte passer les prochaines années à essayer de contribuer avec mes collègues à éclaircir ce mystère. Pourquoi est-ce que ChatGPT marche aussi bien et obtient des effets aussi spectaculaires d'intelligence?
Et tout ça dans un contexte où finalement, avec la puissance de prédiction des données, on a le sentiment que la science pourrait être tentée parfois de se débarrasser de son modèle qui repose sur des théories et des hypothèses. Finalement, la question du comment ça marche, pourquoi ça marche, devient moins importante que la question de l'efficacité. Donc il est important qu'il continue d'exister des philosophes pour nous rappeler que le pourquoi, c'est pas une mince affaire quand même.
Voilà, oui, tout à fait.
Mais ça nécessite un travail, je le disais, vous êtes mathématicien de formation, un travail considérable pour se tenir au courant quand on n'est pas soi-même un scientifique à l'œuvre dans ce domaine, pour se tenir au courant, même si c'est d'un peu plus loin que ceux qui ont les mains dans le cambouis, de ce qui se passe dans la recherche, Daniel Handler.
Oui, c'est vrai que c'est un effort, enfin, pour tous ceux qui font, disons, travail comme ça à la frontière de plusieurs disciplines, c'est un peu la double peine, il faut quand même essayer de comprendre les bases mathématiques, un minimum d'informatique, etc., mais aussi de la psychologie, de la linguistique, comprendre pourquoi, au fond, les modèles qu'ont développés les linguistes depuis des dizaines d'années, finalement, n'ont pas permis d'aboutir à des performances qui s'approchent, de près ou de loin, des performances de GPT, etc. Donc, on a beaucoup de connaissances doivent être mobilisées, et c'est un gros travail qu'on ne peut faire d'ailleurs qu'en collaboration.
Qu'en collaboration et en faisant en sorte que des disciplines différentes travaillent ensemble, ce qui ne va pas de soi dans un monde où les logiques de spécialisation sont poussées à l'extrême et où d'ailleurs probablement l'économie numérique pousse à ces spécialisations, à ces effets de bulle, y compris dans la recherche.
Ah oui, tout à fait, c'est un problème tout à fait important et tout à fait difficile. Bon, moi qui ai donc un peu, vous l'avez dit trop généreusement, que j'avais participé un peu à la structuration des sciences cognitives, donc on est, disons, à la toute fin des années 60, et les années 80, les années 90. Donc il y avait un bel élan pour faire des sciences cognitives interdisciplinaires, très accompagnées, très, très riches, très enthousiastes, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt plus difficile du simple fait que chaque discipline s'est fragmentée en sous-disciplines, qu'il y a maintenant il y a la concurrence, n'est-ce pas, qui fait qu'il faut être très spécialisé si on veut espérer percer. Et donc, nos étudiants ont souvent moins envie, moins de temps, sont moins motivés pour essayer d'embrasser plus large, en quelque sorte, que ce qui leur permettra d'être recrutés au CNRS ou à l'INRIA ou à l'INSERM.
D'où l'importance d'un livre comme le vôtre, Daniel Handler, Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme, parce que c'est pas un essai de philosophie un peu générale comme ça, qui poserait des questions simplement morales sur ce que va faire l'intelligence artificielle dans la société. C'est un livre de philosophie des sciences extrêmement précis, qui revient sur l'histoire des sciences aussi et qui s'attache à définir des mots, des concepts, de façon à ce qu'on y voit tous un tout petit peu plus clair déjà, ce qui est pas mal. On poursuit sur cette question de la place, au fond, de l'intelligence artificielle dans l'intelligence humaine, du dialogue entre les deux, dialogue qui peut se faire dans l'univers de la création. Et on va le voir du côté de la musique avec la grande musicienne contrebassiste de jazz, Joëlle Léandre, qui nous rejoint juste après un extrait du nouvel album d'un groupe qui s'appelle Wednesday, Quarry.
Size candy bars on Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Après nous être demandé ce qu'était l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, nous allons voir dans la seconde partie de l'émission si les deux peuvent d'une manière ou d'une autre collaborer, se parler, imaginer, voire créer des choses ensemble. Et on va en parler avec vous, Joël Léandre, bonjour.
Bonjour, merci.
Vous êtes musicienne, vous êtes contrebassiste, vous évoluez plutôt dans un domaine qu'on appelle en général le jazz, pas les musiques électroniques qu'on aurait immédiatement associées à toutes ces évolutions, mais vous allez à la mi-juin, à l'IRCAM, travailler, improviser avec une intelligence artificielle qui est précisément conçue pour improviser, c'est bien ça ?
Absolument. Alors, je suis pas une musicienne de jazz, j'aime le jazz. J'ai appris l'attitude et le dancing, tout le freedom qui arrive de ces individus-là, de ces musiciens-là, extraordinaires. Mais ça fait 64 ans que je joue le même instrument. Donc, j'ai traversé beaucoup de musique, beaucoup de styles.
Et vous avez commencé avec des gens comme John Cage. Donc, effectivement, ça vous inscrit aussi dans la musique tout court.
Absolument. Pas commencé. J'ai surtout commencé cet instrument à l'âge de 9 ans. Je vais pas vous dire gentiment mon âge. Donc, ça fait de nombreuses années où j'ai fouillé et j'ai aussi créé d'une certaine manière, pas inventé, ça serait ambitieux, mais l'apport de cet instrument et le monde sonore avec cet instrument grave à la base. Et j'en arrive après maintes rencontres de travailler avec Gérard et les gens de l'IRCAM et autour d'un sujet qui m'est cher qui est le sujet de l'improvisation, mettre en forme aussi puisque c'est un sujet compositionnel, le sujet de l'improvisation. Mais là, avec la machine.
Alors Gérard, c'est Gérard Assayag qui, à l'IRCAM, a créé ce programme de recherche internationale qui s'appelle REACH, et donc qui vise à faire que des êtres humains puissent co-créer avec des intelligences artificielles.
Absolument, absolument.
Et ça, ce sera une première pour vous. Vous avez commencé déjà à travailler, à dialoguer avec ces intelligences artificielles ?
Pas vraiment avec cette technologie-là, mais il y a de nombreuses années, quand on rentre en studio, quand on rencontre des ingénieurs de son, quand on manipule le son, quand on manipule beaucoup de choses d'ailleurs, mais qui a à voir avec le monde sonore, pas à ce point où en face de moi et autour et avec, j'ai des musiciens. Après tout, Gérard Raffaï est un musicien. Moi, j'ai fouillé aussi ma technologie ou mon artifice sonore a été un domaine de recherche avec la contrebasse. Parce que j'ai cherché, donc on touche là le monde sonore, évidemment. Donc nous allons improviser ensemble avec la machine qui est artificielle ou pas, mais qui est quand même dirigée par une intelligence humaine.
Mais alors là, on tombe directement dans la situation ou les situations que décrivait précédemment Daniel Handler, à savoir que ce qui caractérise l'intelligence humaine, c'est aussi le fait de se trouver dans des situations qu'il s'agit d'appréhender avec ses sens. Et on voit bien, il suffit d'avoir vu des concerts de musique improvisée pour comprendre ce qui passe à travers les regards, à travers les postures, à travers évidemment les sons produits, mais ces interactions de tous les instants et qui sont multiples. J'imagine que ça doit être mystérieux pour vous qui avez tellement improvisé avec d'autres musiciens, qui jouaient de nombreux instruments, de vous retrouver face à une machine pour le faire.
Ah non, c'est une aventure extraordinaire, je vais vous dire. Pourquoi ? Parce que le sujet même de l'improvisation, c'est aussi le ratage, c'est aussi la découverte, c'est aussi le jeu, au sens jeu d'enfant. Donc, on s'apprivoise, on improvise ensemble, on recherche ensemble, sans avoir, je ne sais pas, je pourrais prendre des risques de dire l'intérêt d'un certain résultat. Le résultat est improvisé. Donc, dans cette abstraction qui est la musique, parce que là, on parle de son, la texture sonore est presque insondable. Donc, c'est un registre très, très large. Et une telle confiance, il y a une confiance de l'individu de la machine qui, lui, effectivement, dirige la machine. Mais il y a aussi les mêmes jeux, d'une certaine manière. Il n'y a simplement pas le corps. Parce que quand on improvise, ou même quand on joue, on peut jouer une quatuor de Mozart, quartet, il y a le corps de l'autre musicien, du geste sonore. Ça, c'est important. Et là, le geste sonore sort ou sortirait d'une machine, mais qui est de toute manière manipulée par un être humain. Mais il n'y a pas cette réciprocité de l'autre. De l'autre au sens humain, c'est ça que je veux dire. Parce qu'en face de moi, j'ai 2-3 machines, parce que pour le concert à l'IRCAM, ils seront 2, puisqu'il y a aussi Michael. Mais c'est l'aventure, je crois. C'est complexe, parce que si on parle de son, c'est très complexe. Puisque ça touche, après, ça a touché, ça continue, des mathématiques, des mathématiciens, ça touche l'algèbre, ça touche beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas une scientifique, hein, je suis simplement une musicienne, mais c'est très complexe. Ça l'a été tout simplement pour moi, complexe avec mon outil. Au fond, c'est un outil. Alors, j'ai bien écouté Daniel avant, on parle beaucoup de cette intelligence artificielle, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des robots, les mécaniques avant ? Peut-être au XVIIe siècle, on bricolait des mécaniques et on faisait marcher, je ne sais quoi, un pantin ou un oiseau. C'était déjà artificiel. Mais ça a toujours été la donne intellectuelle, la donne intelligente, je crois, intelligente, par l'humain et par l'expérience, par l'aventure, du résultat ou non, ou la catastrophe même. Mais dans le rapport au son, c'est très complexe, l'univers sonore. Donc là, il faudrait que je développe le rapport de la machine, de ce que l'homme intelligent a mis lui-même, il ou elle, dans la machine. Là, je parle donc du computer. Donc c'est tout ça.
On va laisser Daniel Handler réagir à ce que vous avez dit, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui doivent le passionner, en effet.
Merci beaucoup, Joël, c'est absolument passionnant. Donc d'abord, il me semble que une des choses les plus intéressantes à propos de ce que vous allez faire, donc en juin à l'IRCAM, c'est que vous ne savez pas d'avance si ça va être réussi ou non. Vous ne savez pas d'avance exactement comment ça va se passer. Donc c'est une vraie expérience. Et on sera, moi je serai très heureux si on donne l'occasion de savoir comment vous avez en quelque sorte vécu cette expérience. Donc ça c'était une première remarque que je voulais faire.
Et ça c'est le principe de la machine, test-erreur.
Oui. En fait. Tout à fait.
On retrouve le fonctionnement de l'informatique.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, l'autre chose qui m'a beaucoup frappé en réfléchissant un petit peu à ce que, à la question de l'IA en art, et je ne savais pas quel serait mon interlocuteur, si ça allait être une chorégraphe, une musicienne,
un plasticien,
un peintre. Et je me suis dit, ah, si c'est de la musique a une vieille habitude, en quelque sorte, d'interagir avec les machines, de toute façon, et c'est exactement ce que vous nous avez dit. Et vous avez parlé de mathématiques. Et je me demande si de tous les arts, mais je suis pas du tout un philosophe de l'art, donc je suis loin de mes compétences, mais il me semble qu'il y a un lien profond entre mathématiques et musique, ça c'est ce que nous enseigne déjà l'histoire, et un lien évidemment entre mathématiques et intelligence artificielle et informatique. Donc il y a une sorte de, on comprend en quelque sorte que la musique soit au fond plus à l'aise peut-être que d'autres formes d'art, avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Joël Léandre.
Écoutez, j'en pense peu, je suis très honnête, que ça, le sujet de l'improvisation est très complexe. Parce que l'état même de ébruiter, de démarrer un son, un seul son, qui se met en vibration, va appeler un autre son. Donc déjà seul, en face de soi-même, il y a une telle aventure, un tel choix, comment vous expliquez ça ? Soyez soi-même. Donc, d'aller vers l'autre, qu'elle soit machine ou individu, avec un autre outil, c'est déjà complexe. On est en duo, duel, déjà peut-être. Donc, je ne sais où est l'intelligence. Moi, j'ai toujours pensé, mais c'est peut-être un peu plat, raplapla, que l'intelligence avait à voir avec la culture. Et nous recevons tellement de différentes cultures. Va savoir, au-delà de ça, évidemment, je parle aussi de l'improvisation, du sujet de l'improvisation. Va savoir si votre grand-mère vous donnait tous les dimanches une confiture d'abricots à 5 heures de l'après-midi. Eh bien, tout ça rentre, et toute cette culture, tout ce que nous lisons, apprenons, lâchons immensément, ça pourrait devenir moléculaire. C'est ça, une culture chez moi. C'est moléculaire. C'est une vraie aventure. Je ne sais s'il y a de la machine. Il y a peut-être la machine dans le moléculaire, mais l'univers du son et des sons, quant à moi, c'est une réflexion que j'ai depuis de longues années, elle est culturelle et elle passe au travers de l'humain. C'est très large quand je parle, mais c'est très profond quand je cause ainsi. Donc, nous sommes tellement littéralement, moléculairement différent. Et ça, c'est culturel. Ce que vous avez lu, tracé, souligné, oublié, raté, toute réflexion faite, elle peut être dans les arts ou dans le quotidien, the day life, construit un individu. C'est pour ça que je pense, simplement dit, que la machine est construite par des individus, qu'elle soit artificielle ou pas. C'est l'homme qui fouille, qui cherche, qui invente, qui crée. La machine, c'est ce que je pense.
Daniel Handler, il y a une autre chose aussi que disait précédemment Joël Léandre, c'est que peut-être la différence dans une situation d'improvisation avec une machine ou deux machines plutôt que des êtres humains, c'est l'absence de corps. Alors, peut-être on va se retrouver demain avec des intelligences artificielles qui ressembleront à des robots très, très humains. Mais en attendant, c'est plutôt pour l'instant des choses abstraites qui sont dans notre ordinateur. Et ça, ça change beaucoup l'interaction et donc l'intelligence de la situation, en fait.
Oui, tout à fait, parce qu'il me semble que, effectivement, la machine, bon, si on suit un peu ma grille de lecture, la machine ne connaît pas de situation. La machine répond avec tout ce qu'on a mis, ce que les ingénieurs ont mis dedans, en quelque sorte, avec une forme d'intelligence qui est une forme de résolution de problème. C'est-à-dire qu'en fait, elle optimise par rapport à ce qu'elle vient de recevoir de Joël. Tandis que Joël, elle n'optimise pas, elle ne résout pas un problème. Tout ce qu'elle vient de dire à l'instant, qui est très, très, très éloquent et qui m'émeut beaucoup, et je vais tout à fait dans le même sens qu'elle, c'est que au moment où elle produit ce son, elle est dans une situation concrète qui implique le corps, qui implique la culture, qui implique sa mémoire, etc. Et il n'y a pas une unique solution. Elle peut aller par-ci ou par-là ou encore une troisième voie. Et cette espèce de latitude, d'ouverture complète au possible, à la multiplicité des possibles, avec à côté de ça une idée qui est loin en elle, profondément en elle et qu'elle exprime, ça c'est quelque chose qui me paraît aussi peu machinique ou machinal que possible. Et je suis très curieux, honnêtement, très curieux de savoir comment ça va se passer à l'IRCAM. Alors, juste une chose, si je peux me permettre, juste ajouter une petite chose. Donc, il y a des tentatives, n'est-ce pas, et j'en parle un peu dans mon livre, des tentatives pour donner un corps à ces intelligences artificielles abstraites, qui sont des programmes, des algorithmes. Donc, il y a maintenant une robotique intelligente où il y a un corps robotique relativement complexe, parce que maintenant on fait des choses relativement complexes, et qui a d'autre part une intelligence qui lui permet de planifier ses missions, et on arrive à des résultats tout à fait remarquables. Cela dit, je prétends que le corps du robot, c'est pas la même chose que le corps de l'être humain. Il y a une différence fondamentale.
Ce qui va se passer à l'IRCAM avec Joël Léandre et ses machines, ce sera le vendredi 16 et samedi 17 juin, donc le concert Reaching Out le vendredi 16 juin. Et puis il y a un séminaire aussi sur toutes ces questions à l'IRCAM le samedi 17, sur ces questions de co-création entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme, c'est le titre de votre essai, Daniel Andler, qui paraît dans la collection NRF Essai des éditions Gallimard. On trouve la référence bibliographique sur la page de l'émission. On trouve également la référence aux événements de l'IRCAM auxquels participera Joël Léandre, que je remercie également. C'est la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier, à la technique aujourd'hui Grégory Wallon, à la réalisation Anne-Laure Chanel.